à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Paul Cadence. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Paul Cadence, vous êtes designer, vous êtes sculpteur et également philosophe à vos heures perdues. C'est ce qui vous a permis d'écrire cet ouvrage dont on va parler dans un instant. Philosophie du devenir, essai pour une compréhension du monde dans son histoire et son devenir. Ouvrage à retrouver sur la boutique de TV Liberté comme d'habitude avec... En couverture, cette sculpture de notre invité, est-ce que vous pouvez nous décrire cette formation, cette construction ?
Alors c'est un cairn, donc un empilement de pierres que je réalise en acier inoxydable poli pour lui donner un petit côté nouveau, voilà, qui est tout à fait plaisant. C'est aussi les premières sculptures de l'homme, donc l'homme au départ... se promène, dépose des pierres au sol pour retrouver son chemin, c'est l'histoire du petit pousset. Un peu plus tard, il empile des pierres les unes sur les autres pour donner à cette sculpture un côté anthropomorphique, pour dire voilà, l'homme est passé par là, quelqu'un est passé par là, et donc j'ai trouvé ça une très très belle idée de sculpture à refaire, surtout qu'elle est exposée en Suisse avec vue sur le Mont Blanc, c'est magnifique.
Alors, justement, cette philosophie du devenir, vous la définissez comme une approche de compréhension de ce qu'est l'être et de ce qu'il est devenu dans son apparition sur Terre. Et vous dites que nous sommes devenus des corps vides, désincarnés, animés par le profit, l'aura sociale, les plaisirs narcissiques. Qu'est-il arrivé à l'homme pour en arriver à ce degré de bassesse ?
Oui, assez rapidement, pour finir, l'homme s'est en effet désincarné de son être ontologique, de son histoire, de son esprit, au profit d'un être qui fonctionne socialement. Et j'ai l'impression qu'il ne s'en est même pas rendu compte.
Ça, et comment cela a commencé ?
Je ne vais pas refaire toute l'histoire du paléolithique au néolithique avec la révolution néolithique. Ça a commencé vraiment au néolithique, à la révolution néolithique, il y a 10 000 ans à peu près, avec les premiers stocks. Donc quand l'homme a commencé à cultiver la terre et à élever du bétail, il s'est vite rendu compte qu'avec les outils qu'il arrivait à fabriquer et avec sa manière de communiquer aussi, il arrivait à faire stocker plus de matériaux qu'il avait besoin pour vivre et sa famille. Il a commencé à stocker. Et à partir de ce moment-là, le premier commerce a commencé. Donc on peut dire qu'au néolithique, ça a commencé vraiment... je dirais la lutte des classes, puisque évidemment il y en avait qui chassaient mieux que d'autres, qui pêchaient mieux que d'autres, qui stockaient plus et donc qui attiraient la convoitise et qui avaient une certaine puissance, une supériorité. Tout a commencé à peu près à ce moment-là.
– L'inégalité.
– L'inégalité des classes a commencé à ce moment-là et puis alors un peu plus tard elle s'est développée, notamment à Babylone en 2300 avant Jésus-Christ, avec la valeur d'échange.
– Alors… vous abordez la problématique du bonheur et vous dites que la compréhension apporte ce bonheur et vous citez Schopenhauer pour qui, lui, le bonheur n'existe pas, il l'exprime par cette citation célèbre, « La vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui ».
Oui.
On a un peu envie de se tirer une balle dans la tête avec ce genre de définition. C'est quoi le mystère du bonheur alors ?
Alors moi je dis que le bonheur, enfin il y a différentes sortes de bonheur, on peut dire que le bonheur... si on est hédoniste, on va dire que ce sont des plaisirs qui sont additionnés et que l'on répète. Si on est eudémoniste, à ce moment-là, on estime que le bonheur est un état général de bonheur. Être heureux est un état général. Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Et pour moi, le bonheur passe par la compréhension. Donc la compréhension des choses et du monde qui est mon travail philosophique apporte le bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans compréhension. Le moindre petit bonheur, la moindre petite joie passe par une compréhension. La chute d'une blague, une histoire qu'on nous raconte, quelque chose qu'on a compris, nous donne un sourire, c'est le bonheur, c'est une compréhension. Et la compréhension du monde, pour moi, est essentielle. Évidemment, ce monde fait tout pour qu'on ne comprenne rien, évidemment, c'est clair.
– Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « heureux les simples d'esprit » ?
– Je dis qu'ils ont raison aussi, parce que, évidemment, c'est une question d'équilibre. Si on a peu d'esprit, peu de demandes, peu de travail intellectuel et de recherche, on aura besoin de moins de bonheur aussi. On devient plus exigeant, plus on avance dans la compréhension, évidemment. Des choses apparaissent, elles deviennent permanent compliquées. Il faut passer au-delà, un stade supérieur. Et là, quand on arrive au sommet de la compréhension, tout s'explique Je ne vais pas dire que tout est merveilleux, tout est catastrophique, mais au moins on a compris. Et comprendre, quelque part, c'est subir un peu moins.
Et pourquoi vous dites que tout est fait pour nous éloigner de la compréhension ?
Mais parce qu'elle ne convient pas à la société du profit. La société du profit a besoin d'une chose, c'est des clients. Elle doit vendre des objets en quantité importante et le plus souvent possible.
Nous sommes tous, les êtres humains, totalement immergés dans cette société du profit.
Nous sommes tous, j'espère pas tous, mais la plupart immergés dans cette société du profit.
À part des sociétés primitives.
Les sociétés primitives n'en étaient pas dépendantes. Cette dépendance est venue avec l'argent, évidemment, et la propriété, et avec la valeur.
Alors, il s'agit pour votre philosophie du devenir, de comprendre l'impact de l'argent sur notre civilisation et d'analyser tout ce qu'il a détruit. Alors, quel pouvoir a-t-on donné à l'argent ?
C'est terrible. Ben, il faut pour ça revenir un peu au début avec le troc. Donc, le troc, c'est l'échange. L'échange a toujours existé. Au paléolithique, on échangeait déjà des choses. Votre livre m'intéresse plus que mon verre d'eau. Mon verre d'eau vous intéresse plus que mon livre. On va procéder à un échange. Mais il y a là une discussion. Il y a un échange, il y a vraiment une mise en... Ce livre représente une valeur pour moi et le verre pour vous. Alors que quand on supprime le verre et qu'on met de l'argent à la place, alors là, il y a une valeur d'échange qui devient absolue, qui fait que ce livre vaut autant pour n'importe qui. Et donc à ce moment-là, on se désincarne complètement de la discussion qu'on avait, de l'échange qu'on pouvait avoir quand on troquait. Donc ça, c'est une première notion super importante. Et puis, après ça, Babylone, 2300 avant Jésus-Christ, les tablettes d'argile qui ont été au-delà du troc. Qu'est-ce qu'on passe, ils passaient leur temps à gratter, à écrire des tablettes d'argile, des reconnaissances de dette, en fait. Hein. J'ai besoin de ton cheval pour aller chercher une cargaison un peu plus loin. Et ta carriole, prête-les-moi, je te ramènerai le matériel et on fera notre échange à ce moment-là. Je te signe une reconnaissance de dette qu'on accroche sur le mur de Babylone. Et toute cette comptabilité était faite, et quand la dette était payée, on détruisait la tablette d'argile. Mais donc, avec la reconnaissance de dette, qu'est-ce qui naît à ce moment-là ? Le mensonge. Puisque l'homme ne peut pas toujours faire ce qu'il a promis, il ne peut pas toujours respecter sa parole. Quelque part, il y a des impondérables qui sont pris comme un mensonge par l'autre partie. Et voilà commencent les conflits. Et les premiers conflits importants démarrent justement à Babylone, en Mésopotamie, en 2300 avant Jésus-Christ.
Vous êtes un peu christique quand le Christ disait « n'amassez pas de richesses ».
Oui, à fond.
Oui, on Alors peut, vous abordez aussi la guerre.
J'ai dit aussi que le philosophe doit rester pauvre. Ouais.
Vous abordez la guerre dans vos chapitres et vous dites que le seul vrai décideur, le vrai dictateur, c'est la finance, le marché. Mais ces guerres n'existaient-elles pas avant l'apparition du marché ?
Oui, mais justement, elles sont apparues à cause de la puissance des dirigeants, à cause de la hiérarchie verticale et hégémonique des pouvoirs. Donc voilà, Athènes, Sparte, c'était des puissances importantes et les guerres ont commencé à cause de ces puissances-là, justement. Donc déjà, avec l'argent. L'argent est arrivé à un moment, je vais prendre un petit exemple qui m'intéresse avec la philosophie, c'est que l'argent est arrivé, les premières pièces de monnaie sont arrivées en Lydie, donc l'ancienne Syrie, en 600 avant Jésus-Christ, et c'est le roi Aliate de Lydie qui a fondu les premières pièces d'argent. Curieusement, à ce moment-là, exactement en Lydie, à Éphèse, la capitale de la Lydie, est né Héraclite d'Éphèse, le premier présocratique, ou un des premiers présocratiques, qui a commencé à faire de la philo. Donc la philo est arrivée au moment où l'argent a été créé. C'est quand même curieux. Il fallait bien...
– Vous insinuez du coup.
– J'insinue du coup que les gens étaient perdus de voir cette valeur absolue arriver, et cette lutte de classe commencer, évidemment, puisqu'avec l'argent est arrivée la propriété. Certains avaient la propriété et d'autres n'en avaient pas. Donc voilà, les jalousies, les problèmes, lutte des classes et les guerres.
Alors pour continuer avec l'argent, vous dites qu'il est inséparable de la dette et du mensonge. Alors pourquoi vous pensez qu'ils se sont substitués à nos besoins naturels ?
Ils se sont pas substitués à nos besoins naturels, ils ont possédé nos besoins naturels. C'est-à-dire que l'argent est arrivé avec la dette et le mensonge et ont pris possession de nos besoins naturels. Nous avons tous de l'argent qui coule dans nos veines. L'argent est devenu l'essence de la population. Et l'hubris, donc la démesure, est devenue l'idéal de la population.
Dites que l'argent a été divinisé, in fine, c'est le nouveau dieu de notre société.
Oui. On n'est pas les premiers à le dire. Marx le disait déjà. Oui, c'est clair que la plupart des gens n'ont qu'un dieu, c'est l'argent, c'est clair. Mais c'est lui qui a pris toute la place et qui dirige le monde, parce qu'il est important de le dire, on n'est pas tous dépendants de ça, mais la production, l'industrie dirige le monde, c'est elle qui dirige le monde. L'industrie donne des ordres aux politiques, qui donnent des ordres à la presse subventionnée, qui nous diffuse des messages. Ça, c'est la réalité des choses. Et nous, on voit les choses à l'envers. Il y a une inversion des valeurs complète qui s'est produite, qui fait qu'on regarde la télé, on a des informations, on y croit. De temps en temps, il y a un politique qui s'exprime, on n'y croit pas. Mais l'industrie, on ne la voit jamais. Elle est absente. On ne voit jamais un patron d'industrie arriver et nous parler, nous expliquer un petit peu sa vie, sa façon de voir les choses, etc. Ça n'arrive pas.
Donc, vous ne pensez pas qu'in fine, tout est religieux, que le religieux ne surplombe pas l'industrie, l'économique ?
J'essaye de rester vraiment à distance de cette tentation-là, parce que je me rends compte qu'elle tourne en rond, en fait. Et si c'est religieux, on va tomber sur les trois monothéismes, dont je ne vais pas parler, parce que ce n'est pas vraiment ma matière. Mais pour moi, les trois monothéismes ne font qu'un. Et je trouve qu'ils sont terriblement similaires et qu'il est très compliqué de les distinguer les uns des autres. Et je trouve qu'ils ont vraiment, ils ont tous les trois cette verticalité qui fait que elle va vers le pouvoir. La verticalité d'un dogme, d'un monothéisme, c'est une sorte d'entropie du pouvoir. Le pouvoir qu'on a en France, en Belgique, dans tous les pays, ce sont des choses assez verticales pour finir. Donc des bons croyants vont bien croire dans leur chef. Et c'est ça qu'il faudrait détruire pour moi.
Et vous dites que face à l'échec du monde du commerce, le capital panique et se bat pour survivre. Où voyez-vous, donnez-nous des exemples, l'échec du monde. L'échec du monde du commerce, où est-il, aux yeux ?
Bon, ben, c'est très simple, on va reprendre Marx en deux mots. Et donc Karl Marx nous explique déjà au 19e siècle que l'industrie connaît une sorte de diminution, une faillite endémique qu'il appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà. Il explique en gros que les machines n'apportent pas de valeur, au contraire, on licencie du personnel, mais elles accélèrent terriblement la production, ce qui crée une concurrence. Cette concurrence fait que les prix baissent et qu'on doit produire de plus en plus. Et à un moment, on arrive à la saturation des marchés. Et qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui ? On ne connaît que ça, la saturation des marchés. On doit acheter.
Il y a trop d'offres.
Il y a beaucoup trop d'offres, évidemment. On doit acheter et racheter de plus en plus souvent, de plus en plus cher, ou en tout cas, de plus en plus souvent. On le voit avec les voitures électriques, on le voit avec un tas de choses. L'industrie va mal. Elle commande des politiques en disant « ça ne va pas, ça ne marche pas, je perds de l'argent. Trouvez-moi des solutions pour que les gens rachètent de nouvelles voitures. » Les politiques se grattent la tête, ils se disent « je ne vais pas pouvoir dire au peuple que l'industrie va mal, qu'elle est en faillite et qu'il faut changer de bagnole. Ils ne vont jamais le faire. »
Ils vont nous proposer le transhumanisme.
On va nous proposer
une nouvelle forme d'hubris.
Et on va nous.
L'augmentation de l'homme.
Restons une seconde sur cette histoire de voiture électrique et de changement technologique qui passe comme une idéologie. Et en fait, il n'y a pas d'idéologie. Il y a l'industrie qui décide au départ. Les politiques inventent une idéologie qui transmettent à la presse, qui nous transmet à nous. Et nous, on suit le mouvement en croyant à une idéologie. Et tout le reste, et tout ce qui suit, la fausse écologie, les éoliennes, les panneaux solaires, tout ce qu'on veut, c'est ça. Le Mercosur, c'est ça aussi. Le Mercosur, c'est quoi ? C'est pas importer librement du blé d'Amérique du Sud, c'est pouvoir exporter librement des voitures allemandes.
C'est l'imposture du progrès, vous dites. Le progrès pour plus de confort, pour le bien-être des gens qu'on présente comme étant pour le bien-être des gens, vous dites que ce n'est qu'illusion.
Oui, voilà, ce n'est qu'illusion. Évidemment qu'on a beaucoup trop et qu'on vivrait bien avec beaucoup moins de choses. Simplement, comme il y a cette faillite endémique à la production, à l'industrie, eh bien, c'est trop tard. Ils doivent produire de plus en plus de quantité, de plus en plus vite et de moins en moins cher pour vraiment nous asphyxier de marchandises. C'est ce qui se passe maintenant. Ça ne durera pas longtemps.
Mais se tire une balle dans le pied, justement, si ça mène à la destruction de ceux qui, de la demande.
Ils se détruisent moins en faisant ça et en continuant encore un petit peu, en espérant qu'avec une quantité plus importante, ils vont en sortir, parce que je pense qu'ils n'ont même pas compris eux-mêmes le phénomène que Marx expliquait. Et donc, et la plupart des gens, c'est ça, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, en fait, et ils suivent le mouvement. Et l'industrie, elle ne peut pas faire marche arrière, elle ne peut pas fermer ses usines. Il est obligé de continuer, essayer de produire de moins en moins cher, délocaliser, et mondialisation, et tout ça s'explique. Si on vient à Marx et sa baisse du taux de profit, ben on comprend tout. Si on ne comprend pas ce que Marx a dit à ce moment-là, ben on continue à ne rien comprendre et à espérer que les choses vont se résoudre un jour.
– Alors, je vous cite Paul Cadence, « Plus nous possédons le savoir, la sagesse, la raison, plus nous agissons dans la mesure, dans le calme et la modération ». Mais face à ces gens, justement, de l'industrie dont vous parliez à l'instant, qui ne connaissent que le rapport de force, faut-il justement avoir ce calme et cette modération pour cohabiter avec eux, ou la cohabitation est-elle impossible ?
Voilà, le positif dans ma démarche et ce que je propose, c'est qu'on n'est pas obligé, on ne dépend pas de cette industrie à 100%. On n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on achète, on n'est pas obligé de suivre l'industrie.
Parce que c'est l'ermitage que vous nous proposez ?
Je propose de retrouver un lien avec l'universel. Je propose de retrouver un lien avec notre esprit. J'explique qu'il y a deux mondes. Il y a le monde universel qui a tout créé et il y a le monde social que nous avons fabriqué de nos mains. Ce monde social fabriqué de nos mains ressemble à un monstre aujourd'hui. Soyons clairs, il n'y a pas d'autre mot. Le monde universel, lui, continue sa route gentiment et c'est quand même lui qui va gagner à la fin, ça c'est sûr et certain. Donc, je propose que l'on se dédouane un petit peu de ce monde de la production, ce monde du profit, qu'on retrouve du sens et de l'esprit en contact avec l'universel. On vivra mieux, plus heureux, avec moins de besoins, moins de nécessités et moins dans l'asservissement.
Est-ce que vous pensez que ce qu'on a appelé la crise du Covid nous a emmenés encore plus dans ce que vous dénoncez ?
La fameuse crise du Covid. Pour moi, il n'y a pas vraiment de crise du Covid. Pour moi, il y a une crise de mesures anti-Covid. C'est plutôt ça qu'il y a eu. Et je pense qu'on a été pris dans une imposture inimaginable, quasiment à l'échelle mondiale, au niveau de toutes ces mesures. Et là, on a compris une chose. On a vu quand même à travers le filtre. On a vu que on n'avait pas grand-chose à dire. Et si je peux dire un mot sur la démocratie, je vais le dire.
Ah bah allez-y.
On a vu qu'on n'avait pas grand-chose à dire pour se défendre et qu'on était en fait tenu comme ça par un pouvoir hégémonique et masqué, distance sociale et compagnie. Donc c'était complètement stupide et scandaleux. C'est ce que ça a dévoilé à ce moment-là. Et donc ça nous fait peur, en tout cas ça me fait peur, pour l'avenir, pour ce qui se passe maintenant avec les guerres par exemple. Parce qu'on se rend compte que, voilà, on est à la merci des dirigeants, quoi. La démocratie, pour moi, est une imposture du premier jour, parce que si on fait un peu d'étymologie, en fait, il y a le démos kratos, donc le peuple et le pouvoir. En fait, au départ, en Grèce, à l'Antiquité, en moins 550, moins 600, le démos représente une unité de mesure. Le 10, qui est le dème, en fait, ça correspondait à la distance de 10 maisons, espacées plus ou moins de 100 mètres. Ça, c'est le dème. Et ça représente le peuple. Avant le démos, il y avait le génos. Le génos, c'est le gène, c'est la racine, c'est la famille. Donc le peuple grec était représenté par le génos avant le démos. Donc quand la propriété terrienne est arrivée, le nom du peuple a changé. Et l'étimon, c'est un étimon démos, a remplacé le génos. Ce qui veut dire que déjà au départ, le mot démocratie est un peu étrange, parce que de peuple en question, on parle d'un peuple de propriétaires terriens. Ce qui n'est pas une réalité vraiment des peuples qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, le pouvoir du peuple, c'est une phrase, je crois que personne n'a vraiment réfléchi à cette phrase-là. Si le peuple a le pouvoir disparaît. Le pouvoir, pour qu'il existe, il faut qu'il soit dans les mains d'une personne ou d'un petit groupe. Ça, c'est le pouvoir sur un autre groupe plus important. Mais si le peuple a ce pouvoir, il n'y a plus de pouvoir, il disparaît. On ne peut plus appeler ça le pouvoir à ce moment-là, puisque c'est le peuple. Donc, voilà, la démocratie est une imposture. Il n'y a que des régimes autoritaires, en fait, dans ce monde.
– Le devenir, dites-vous, est une conscience, celle de savoir que nous sommes des êtres finis, engendrés par le divin. Qu'est-ce que vous entendez quand vous expliquez que notre personne ne s'arrête pas à notre enveloppe physique, mais qu'elle s'étend bien plus loin dans le temps et l'espace ?–
Merci, je vais… prendre un exemple, c'est l'animal, le cheval que je connais bien. Quand on a un problème sémantique par exemple, le cheval, avec tout, on a des problèmes sémantiques, mais bon, prenons le cheval. On ne devrait pas dire un cheval, on devrait dire animal, herbivore, quadrupède, broutant l'herbe et buvant l'eau.
C'est un peu long.
C'est un peu long. Voilà, c'est un peu long, mais c'est un peu plus juste. Parce qu'en réalité.
Plus exact.
Plus exact. Le cheval est lié à l'universel. Il est tellement lié à l'universel que. Il broute l'herbe, il la digère, il la déjecte. Ces déjections vont fertiliser la terre, vont nourrir tous les petits vers, les mouches et les oiseaux. Tout ça va retourner à la terre et ça va lui revenir à lui. Il est tellement lié à l'universel, le cheval, qu'il n'a pas peur de sa propre mort. Il n'a pas la conscience de sa mort, parce que les animaux...
Il n'a pas conscience de lui-même, peut-être, déjà.
Il a conscience de lui-même, oui, parce qu'il a un esprit développé, mais il n'a pas conscience... de sa propre mort. Il n'a pas cette culture-là. Et en même temps, il ne l'aura jamais, parce qu'il est tellement lié à l'universel. L'universel ne s'arrête pas et est réellement infini. C'est la raison pour laquelle, faisant partie de l'universel, eh bien, il n'a pas peur de la mort. Si on retrouvait un peu plus de lien avec l'universel, on aurait un peu moins peur de notre propre mort et on s'éloignerait un peu de Schopenhauer, qui dit qu'on passe notre temps à
s'ennuyer ou à souffrir.
À s'ennuyer ou à souffrir, à passer son temps à essayer de ne pas s'embêter. Ça, c'est à ça qu'on risquerait d'arriver.
Et vous développez enfin trois étapes vers le retour à soi et le corps physique retrouvé. Comment ça se passe alors ?
Alors, je suis un lecteur de Hegel, donc voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais j'ai toute cette période du Covid, justement, ces 2 ans et demi de temps, j'ai lu la phénoménologie de l'esprit de Hegel, je pense avoir compris des choses, en tout cas c'est un livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit et donné envie d'écrire aussi. Et donc Hegel parle de... on va dire que j'ai ma pensée, donc j'ai mes lectures et je crée ma propre pensée quand même à côté, donc je simplifie ou je détourne un petit peu. Il y a l'en-soi, le pour-soi et le retour à soi. L'en-soi, c'est le moment de la vie où on est, notre naissance, notre éducation, ce qu'on se crée, on va dire, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 16-18 ans. À ce moment-là, on est plus ou moins construit, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Bon, très bien. On continue. Mais en fait, on ne sait pas très bien ce qui nous est arrivé. Cette éducation est arrivée un petit peu comme ça. On a tous un peu le même problème. Et puis, chemin faisant, on lit quelques bouquins, on s'intéresse à des choses qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas dans le cercle familial, ouais. Voilà, qui nous dépasse un peu. Et on s'ouvre l'esprit, on arrive à comprendre des choses. Et on arrive au stade du pour-soi. Le pour-soi, c'est sortir de soi et s'observer. C'est le cogito de Descartes qui nous dit, je pense donc je suis, il nous dit, il se pourrait que tout ce que je pense jusqu'à présent soit faux. Le simple fait que je me dise ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pense ça.
Le doute.
Voilà, le doute donc, ça veut aussi dire que j'existe puisque je m'observe. J'existe par la pensée. C'est la pensée, le monde intelligible de Platon, si on veut, par rapport au monde sensible. Donc le pour-soi, c'est sortir de soi et s'observer. Se rendre compte que voilà comme je suis, et qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais modifier. Et là, on commence le travail dans le pour-soi de la modification de soi, son évolution.
Et puis, est-ce que le pour-soi est encore possible aujourd'hui ? Le doute, que la société, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous interdit de douter, nous interdit la compréhension.
Voilà. Elle nous interdit de douter.
On devient des complotistes en fait en doutant, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, c'est ça, en doutant on devient des complotistes et
on n'avale plus tout.
Oui, mais surtout l'industrie qui est toujours aux commandes risque de perdre des clients. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut des gens...
Consomme, idiot.
Qui consomment, voilà, qui consomment, idiot, et qui réfléchissent pas trop. Ils peuvent éventuellement hésiter de couleur, mais pas de modèle. Mmh. Donc, ils doivent absolument acheter. Donc, le doute est relativement interdit. Mais il y a une grande différence encore, c'est un tout petit peu plus loin, entre Descartes et Spinoza, par exemple, c'est que Descartes, lui, c'est le philosophe du doute, c'est certain, qui remet tout en question, mais... Et c'est là le problème de Descartes, c'est qu'il arrive avec une morale derrière. Il arrive avec des conclusions. Et le fait d'avoir douté est très bien et très positif, mais le fait d'arriver avec une morale et donc tirer des conclusions de l'expérience, moi je condamne un peu ça. Je préfère un Spinoza qui va dire « je suis un empirique, je fais des recherches, je travaille, je réfléchis, je découvre des mondes ». Et je ne m'arrête pas, je continue de réfléchir.
Mais ça, c'est le progrès, justement. On tourne en rond et on ne s'arrête jamais sur la vérité. Vous n'êtes plus christique et vous ne croyez plus à la vérité, alors.
Le progrès est une imposture telle qu'il est présenté dans la société aujourd'hui. Il ne s'agit pas de progrès, c'est de nouveau une idéologie qui est collée à une consommation obligatoire. Donc on va nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, on va devoir l'acheter. Et sous l'appellation du progrès, on n'a pas trop d'excuses. Ah, c'est nouveau, donc on va le faire. Un peu comme l'intelligence artificielle et toutes ces impostures. Tout ce qui est nouveau devrait se vendre. Et ça, c'est génial. C'est plutôt les publicitaires qui ont inventé le progrès que les ingénieurs et les techniciens.
Et la troisième étape, alors ?
La troisième étape, c'est le retour à soi. Donc ça, c'est le stade de sagesse que je ne connais pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais. Mais c'est la sagesse, la raison, qui fait que c'est le côté un peu stoïcisme dans l'histoire. C'est qu'à la fin, on revient à un accord avec l'en-soi. Donc c'est cette dialectique-là qui est super intéressante.
On revient avec l'enfance.
On revient avec un accord avec tout le chemin qu'on a parcouru. On comprend tout le chemin. Pour s'abolir, ben évidemment, il faut un peu se détester à un moment donné. Il faut détester sans doute nos parents, notre famille, nos études et notre cadre social. Et puis on en sort de ça. Mais après, on arrive à un accord complet avec l'ensemble de notre vie. Et ça, c'est le retour à soi qui est, je trouve, un moment fabuleux, quoi.
Et là, on peut vivre.
Et là, on peut enfin vivre, se laisser vivre et plus trop s'inquiéter. Ouais.
Philosophie du devenir, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on a donné à nos téléspectateurs peut-être l'envie d'ouvrir votre ouvrage, Essai pour une compréhension du monde, et dans son histoire et son devenir, c'est publié aux éditions du Lys Bleu. Merci Paul Cadence.
Merci à vous.